Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des mystères les plus profonds de l'existence humaine, celui de l'amour dans sa dimension à la fois charnelle et transcendante. Le texte qui va suivre nous invite à méditer sur la manière dont le corps devient le temple de l'âme, comment le désir se fait chemin vers l'absolu, et comment dans l'union amoureuse authentique se révèle peut-être la seule vérité qui vaille en ce monde. Nous allons contempler comment la mémoire tactile prolonge la présence de l'être aimé bien au-delà de sa présence physique, et comment l'amour véritable efface les frontières entre le temps et l'éternité, entre la matière et l'esprit. Je vous propose que nous écoutions déjà ce poème que je vais vous partager et vous lire, et qui est intitulé « Mon vallon perdu ». J'ai fait courir encore une fois ma main, oui, encore une fois, sur ses draps de satin. Je la regardais amoureusement parcourir le creux des vallons, me rappelant l'intensité de notre éternité, de sa course raffinée. De cet instant figé, désir inépuisé, ici me caresse encore ses mots de son souffle saccadé, ses doigts parcourant ma peau, mettant à nu mon âme, emplie du désir de son regard félin. De notre union céleste, seule réalité de ce monde, celle d'un amour faisant disparaître l'immonde, rendant la matière de nos corps aussi futile qu'une parole prononcée dans un désert sans Dieu. Ce poème nous plonge immédiatement dans l'intimité d'un geste qui pourrait sembler simple, presque banal, mais qui révèle en vérité toute la profondeur du mystère amoureux. Une main qui court sur des draps de satin. Voilà le point de départ d'une méditation sur la présence dans l'absence, sur la manière dont l'amour véritable abolit le temps et transforme chaque surface, chaque texture en palimpseste où s'inscrit l'histoire d'une rencontre absolue. La répétition initiale, encore une fois, oui, encore une fois, n'est pas un bégaiement du langage, mais bien l'expression d'un rituel intime, d'une cérémonie personnelle de remémoration. Ce geste répété devient liturgie, une manière de convoquer l'invisible à travers le visible, de faire advenir la présence de l'autre par la seule médiation du toucher. Dans cette répétition se loge quelque chose d'essentiel à la condition amoureuse. Le besoin de revivre, de retrouver, de reconstituer l'instant de grâce. Car l'amour authentique n'est jamais satisfait d'une seule fois. Il cherche sans cesse à retrouver cette première fois, où tout s'est révélé, où l'évidence s'est imposée avec la force d'une illumination. Les draps de satin ne sont pas un détail décoratif, ils constituent le support matériel de la mémoire tactile. Cette mémoire que nous sous-estimons souvent, mais qui possède une puissance d'évocation peut-être supérieure à toutes les autres. Le satin, par sa douceur, par sa fluidité, par sa manière de glisser sous la main, évoque la peau aimée. Il devient le substitut, le symbole, le souvenir palpable de ce qui fut. Dans les traditions ésotériques, le toucher est souvent considéré comme le sens le plus profond, celui qui met directement en contact avec la réalité substantielle des choses. Toucher, c'est abolir la distance. c'est entrer en communion directe avec l'être de ce que l'on touche. Lorsque mon poème nous dit que la main est regardée amoureusement, il opère un dédoublement fascinant du sujet. Celui qui se souvient se regarde se souvenir. Il y a là une forme de contemplation intérieure, une observation de soi dans l'acte même du souvenir. Cette distance réflexive n'est pas froide pour autant. Elle est habitée par la tendresse que l'on porte à ses propres gestes lorsqu'ils sont imprégnés de l'être aimé. La main devient autre. Elle est à la fois soi et l'autre. Elle prolonge dans le présent la caresse qui fut. Le creux des vallons introduit à ce stade une métaphore géographique d'une grande richesse symbolique. Le vallon, dans la tradition poétique, désigne un espace intime, protégé, secret. C'est un lieu de retraite, un refuge loin du monde et de son agitation. Mais ici, le vallon est aussi topographie du corps aimé. Les courbes, les creux, les reliefs du corps deviennent paysages, territoires à explorer, géographie sacrée. Cette métaphore nous rappelle que l'amour véritable transforme le corps de l'autre en cosmos entier. Chaque centimètre de peau devient continent. Chaque courbe devient vallée ou montagne. Chaque grain de beauté devient étoile dans une constellation intime. Dans la tradition alchimique et hermétique, le corps humain est souvent comparé à un microcosme qui reflète le macrocosme universel. L'union amoureuse devient alors hiérogamie, mariage sacré entre les principes complémentaires de l'existence. Le vallon peut aussi évoquer le principe féminin réceptif, l'espace accueillant où vient se lever le désir. Mais au-delà de ces symboliques genrées, le vallon représente surtout l'intériorité, la profondeur, ce qui ne se donne pas immédiatement au regard, mais demande une exploration patiente et respectueuse. L'expression, l'intensité de notre éternité, constitue l'un des noyaux philosophiques essentiels de mon poème. Comment l'intensité peut-elle s'unir à l'éternité ? L'intensité évoque la concentration extrême du présent, le moment où toute l'existence se rassemble en un point incandescent de conscience. L'éternité, elle, suggère une sortie du temps, une dimension où le passé, le présent et l'avenir ne font plus qu'un. Dans l'union amoureuse, authentique, ces deux dimensions apparemment contradictoires se rejoignent. L'instant devient éternel non pas parce qu'il dure indéfiniment, mais parce que sa qualité d'être est telle qu'il échappe à l'érosion du temps. Les philosophes ont longtemps médité sur cette expérience paradoxale du temps dans l'amour. Platon, dans Le Banquet, fait dire à Diotime que l'amour est désir d'immortalité. L'être humain, confronté à sa finitude, cherche dans l'union amoureuse une forme de perpétuation qui transcende la simple reproduction biologique. Il cherche à toucher l'absolu, à goûter l'éternité au cœur même du temps qui passe. Chaque grande rencontre amoureuse possède cette qualité d'intemporalité. On se souvient avec une précision extraordinaire de certains instants, comme si le temps s'était cristallisé autour d'eux, comme s'ils avaient été soustraits au flux ordinaire des événements pour être conservé dans une dimension autre. La course raffinée de la main sur le corps aimé n'est pas une course effrénée, mais plutôt une sorte de chorégraphie délicate, une danse où chaque mouvement est ajusté, mesuré, habité par l'attention. Le raffinement évoque la culture, l'éducation du désir, sa transformation en art. Car l'amour véritable n'est pas seulement affaire d'instinct. Il suppose une certaine forme de civilisation des émotions, une capacité à transformer la pulsion brute en expression sensible. Cette course raffinée est celle d'un explorateur qui connaît déjà le territoire, mais le redécouvre chaque fois avec émerveillement, comme si c'était la première fois. L'instant figé et le désir inépuisé forment un nouveau paradoxe fécond. L'instant se fige, se cristallise dans la mémoire, devient icône intérieure que l'on peut contempler encore et encore. Mais simultanément, le désir demeure inépuisé, toujours vivant, toujours brûlant. Cette coexistence du fixe et du mouvant, du passé et du présent, révèle la nature particulière du souvenir amoureux. Il n'est pas simple archive mentale, trace inerte d'un événement révolu. Il est présence active, puissance qui continue d'agir, de transformer, d'animer celui qui se souvient. Lorsque mon poème affirme ici « me caresse encore ces mots », il opère une fusion remarquable entre plusieurs registres sensoriels. Les mots caressent comme des mains. Le langage devient tactile presque. La parole se fait presque contact physique. Cette synesthésie révèle une vérité profonde sur l'amour. Dans la véritable intimité, toutes les formes de communication convergent. Les mots prononcés dans l'union amoureuse ne sont pas de simples véhicules d'information. Ils sont chargés de présence, de souffle, de corps. Ils portent la chaleur de celui qui les prononce, son rythme respiratoire, sa vulnérabilité. Le souffle saccadé évoque bien sûr l'essoufflement du désir, mais aussi quelque chose de plus subtil. La difficulté de parler lorsqu'on est saisi par une émotion trop forte. Les mots se heurtent à l'intensité de ce qui se vit. Ils butent sur l'indicible. Dans les grandes traditions spirituelles, le souffle occupe une place centrale. C'est le pneuma grec, le prana sanskrit, le ruah hébraïque. Le souffle, qui est à la fois air physique et esprit vital, le souffle saccadé de l'amour et celui de l'âme qui peine à contenir l'immensité de ce qu'elle éprouve, qui se heurte aux limites du disciple. Ses doigts parcourant ma peau. On a ici une image simple qui recèle pourtant une profondeur insoupçonnée. Les doigts ne font que toucher superficiellement. Ils parcourent, ils explorent, ils lisent. La peau devient texte, surface signifiante que les doigts déchiffrent. Dans l'amour véritable, toucher l'autre, c'est le connaître d'une connaissance qui n'est pas intellectuelle, mais existentielle, charnelle, totale. Les doigts qui parcourent la peau tracent une cartographie intime. Ils apprennent par cœur, littéralement par le cœur et non par la tête, la géographie unique de l'être aimé. L'expression « mettant à nu mon âme » est grammaticalement audacieuse et poétiquement bouleversante. Le verbe « étendre » devient transitif appliqué à l'âme, comme si l'âme pouvait être déployée, exposée, offerte au regard et au toucher. Cette nudité de l'âme dépasse infiniment la simple nudité physique. Elle suppose une vulnérabilité extrême, un abandon de toutes les défenses, de tous les masques. Dans l'intimité amoureuse authentique, on ne se contente pas d'exposer son corps, on expose son être, le plus profond, ses blessures et ses espérances, ses ombres et ses lumières aussi également. Dans les traditions mystiques, on a souvent utilisé le vocabulaire de l'union amoureuse pour décrire la relation entre l'âme et l'absolu. Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Rumi, Allage et tant d'autres ont chanté l'amour divin en termes érotiques. Cette rencontre du vocabulaire mystique et du vocabulaire amoureux n'est absolument pas fortuite. Elle suggère que l'union amoureuse humaine porte en elle-même une dimension transcendante. qu'elle est une voie d'accès au sacré, lorsque deux êtres se rencontrent dans une authenticité totale, quelque chose de plus grand qu'eux advient, une ouverture vers l'infini se produit. Puis vient empli du désir de son regard félin. L'image du regard félin concentre plusieurs significations. Le félin évoque la prédation amoureuse, non pas au sens violent, mais au sens d'une attention focalisée, exclusive, totale. Le chat, qui observe sa proie, met en jeu toute son intensité, tout son être se rassemble dans ce regard. De même, le regard amoureux n'est pas un regard distrait ou superficiel, c'est un regard qui pénètre, qui voit au-delà des apparences, qui déshabille non seulement le corps, mais l'âme. Ce regard amplifie le désir, il l'augmente, il le magnifie quelque part. Car le désir amoureux se nourrit du désir de l'autre. Il s'accroît d'être partagé, reflété, renvoyé. La notion du non-céleste, je trouve, nous transporte dans un registre explicitement spirituel. Et c'était le but dans cette fin, dans cette manière de clôturer le poème. L'adjectif céleste n'est pas ici une hyperbole romantique, mais une tentative de nommer la qualité particulière de certaines rencontres amoureuses. Céleste, c'est ce qui appartient au ciel, par opposition à la terre, ce qui participe d'une dimension supérieure de la réalité. L'union céleste serait alors celle où les deux amants ne se contentent pas de mêler leurs corps, mais où leurs âmes communient, où ils touchent ensemble à quelque chose qui les dépasse infiniment. Dans la philosophie platonicienne, l'amour véritable est celui qui, partant de l'attirance pour un beau corps, s'élève progressivement vers la contemplation de la beauté en soi, de l'idée pure de beauté. Cette ascension érotique conduit l'âme vers le divin. Notre poème, ici, semble suggérer quelque chose d'analogue. L'union des corps, loin d'être un obstacle à la spiritualité, peut en devenir le véhicule, le sacrement. La chair n'est pas niée au profit de l'esprit, elle est transfigurée, elle devient transparente à l'esprit. L'affirmation « seule réalité de ce monde » possède ici un caractère philosophique qui est totalement radical. Elle suggère que tout le reste, les agitations sociales, les préoccupations matérielles, les ambitions mondaines, relève de l'illusion ou du moins du secondaire. Seul l'amour authentique constitue une réalité à laquelle on peut se fier, qui ne trompe pas, qui ne déçoit pas. Cette position rappelle la pensée de certains philosophes existentialistes pour qui l'authenticité de la relation amoureuse constitue un rempart contre l'absurde et l'aliénation du monde moderne. Mais cette affirmation va, à mon sens, plus loin encore. Elle ne dit pas seulement que l'amour est la chose la plus importante, elle dit qu'il est la seule réalité. Cela signifie que tout ce qui n'est pas habité par l'amour, tout ce qui ne participe pas de cette dimension de l'union authentique, appartient au domaine de l'apparence, du simulacre, de la fantasmagorie. Le monde social, avec ses conventions, ses mensonges, ses violences, serait alors moins réel que l'instant d'abandon et de communion entre deux êtres qui s'aiment véritablement, profondément. Celle d'un amour faisant disparaître l'immonde. Cette formulation est puissante. L'immonde, c'est étymologiquement ce qui est hors du monde, ce qui devrait en être exclu tout du moins, parce que il souille. C'est la laideur morale, la bassesse, la violence, la trahison, tout ce qui défigure l'existence humaine. L'amour authentique possède cette vertu purificatrice. Il fait disparaître l'immonde, non pas en niant son existence. L'immonde existe bel et bien dans le monde, mais en créant un espace autre, une sorte de sanctuaire où l'immonde ne pourrait pénétrer. Et cette fonction purificatrice de l'amour traverse, encore une fois, toutes les traditions spirituelles. L'amour agapé, chrétien, purifie le pécheur. L'amour bhakti, hindou, brûle le karma négatif. L'amour Mahahaba, soufi, dissout les voiles qui séparent de Dieu. Dans notre poème, c'est l'amour humain, charnel et spirituel à la fois, qui accomplit cette œuvre d'épuration en se donnant totalement à l'autre, en acceptant d'être vu dans sa nudité essentielle. On abandonne les scories de l'ego. On se dépouille de ce qui est faux, factice, laid en soi. L'image finale de mon poème, eh bien, je l'ai voulu saisissante, en disant, rendant la matière de nos corps aussi futile qu'une parole prononcée dans un désert sans Dieu. Cette comparaison possède plusieurs niveaux de lecture. D'abord, elle affirme le dépassement de la matérialité, les corps dont l'union véritable cesse d'être des obstacles séparateurs, ils deviennent transparents, ils s'effacent au profit de la communion des âmes. Mais attention, le poème ne me dit pas que les corps sont niés ou méprisés. Il dit qu'ils deviennent futiles, c'est-à-dire non essentiels. Ils restent nécessaires comme support de la rencontre, mais ce qui compte vraiment se joue à un autre niveau. La parole prononcée dans un désert sans Dieu est une image d'une désolation métaphysique, absolue. C'est une parole qui ne s'adresse à personne, qui ne sera entendu par personne, et qui se perd immédiatement, en fait, dans le néant. Une parole sans destinataire, sans écho, sans résonance, dans un monde habité par Dieu, ou par le sacré, ou par le sens. Toute parole trouve un répondant, s'inscrit dans un ordre signifiant. Mais dans un désert sans Dieu, la parole et pure dépense inutile, vanité sonore qui retombe aussitôt dans le silence. Pourquoi comparer la matière des corps à cette parole perdue, finalement? Parce que, suggère mon poème, hors de l'amour authentique, nos corps sont eux aussi futiles, sans destinataire véritable, sans résonance. Ils existent biologiquement, bien sûr, certes, mais ils ne signifient rien, au fond. Ils ne participent d'aucune communion, d'aucune transcendance. Seul l'amour véritable donne sens à nos corps. Les fait exister pleinement, les inscrit dans un ordre où ils cessent d'être de simples agrégats de matière pour devenir temple de la présence, lieu de la révélation. Cette méditation poétique sur l'union amoureuse nous renvoie à notre propre expérience, à nos propres moments de grâce, où nous avons pu entrevoir ce dont parle mon poème. Chacun de nous, sans doute, conserve le souvenir de certains instants d'intimité absolue, où le temps s'est arrêté, où le monde extérieur s'est aboli, où nous avons touché à quelque chose d'infiniment précieux et fragile. Ces instants sont rares, très rares, et c'est précisément la rareté qui en fait le prix. La mémoire dont parle mon poème n'est pas nostalgie stérile ou complaisance dans le passé. C'est une mémoire active, créatrice, qui maintient vivante la présence de l'autre, même en son absence. C'est une fidélité non pas au passé comme tel, mais à la vérité de ce qui fut vécu. Car ce qui fut vécu d'authentique ne passe jamais vraiment. Il entre dans une dimension intemporelle où il demeure disponible à la contemplation intérieure. Je me souviens des grands maîtres spirituels qui enseignent souvent l'importance de la présence, de l'attention au moment présent. Mais ils enseignent aussi une autre forme de présence, la présence à ce qui fut essentiel, la mémoire comme acte de fidélité à la vérité. Se souvenir amoureusement, ce n'est pas fuir le présent, c'est honorer le passé et, en maintenant, vivant, ce qui, en lui, portait une promesse d'éternité. C'est reconnaître que certains instants valent plus que des années entières, qu'ils concentrent plus de réalité, plus de sens, plus d'être que tout le reste. Le vallon perdu du titre prend alors tout son sens. Il est perdu non pas au sens où il aurait disparu complètement, mais au sens où on ne peut plus y revenir physiquement, où on ne peut plus le parcourir qu'intérieurement, par la mémoire et l'imagination. Ce vallon est le lieu géographique et symbolique de l'intimité partagée. Le territoire secret, ou où s'est accomplie la rencontre, eh bien, il est perdu comme le paradis est perdu, mais il demeure en nous comme une boussole intérieure qui nous indique ce qui vaut vraiment le coup. Ça me rappelle à la tradition alchimique, l'union du masculin et du féminin, symbolisée par les noces chimiques, produit l'or philosophal, la pierre qui transforme le vil métal en substance précieuse. Cette union n'est pas seulement physique, elle suppose une conjonction de tous les niveaux de l'être, corps, âme, esprit. Notre poème décrit précisément cette alchimie. Deux êtres qui, en se rencontrant, véritablement, se transforment mutuellement, se révèlent l'un à l'autre, accèdent ensemble à une dimension supérieure de conscience et d'existence. La question qui peut se poser est celle de la durée. L'instant sublime, l'union céleste, comment les faire durer? Comment maintenir cette intensité dans la durée quotidienne d'une relation? La réponse du poème, eh bien, semble être que l'on ne peut pas maintenir indéfiniment le même degré d'intensité. Et puis peut-être ne le faut-il pas, tout simplement. Mais on peut conserver la mémoire de ces instants comme des phares qui éclairent l'ensemble du chemin, de notre chemin commun. On peut y revenir intérieurement, les laisser nous nourrir et nous inspirer. La contemplation amoureuse, dont parle mon poème, est une pratique spirituelle à part entière, je pense. Elle consiste à revenir intérieurement sur les moments d'union authentique, à les méditer, à en extraire la quintessence. Cette contemplation n'est absolument pas passive, elle est un acte créateur. Elle produit du sens, elle transforme celui qui s'y adonne. En méditant sur l'amour vécu, on approfondit sa compréhension de l'amour en général. On affine sa capacité à aimer et on se rend disponible à la rencontre. Il y a dans ce poème une reconnaissance du caractère sacré du corps et du désir. Trop souvent, les traditions spirituelles ont opposé corps et âme, désir et élévation, sensualité et transcendance. Ce texte propose une voie différente, celle d'une spiritualité incarnée, où le corps n'est pas un obstacle, mais plutôt un chemin, où le désir n'est pas une chute, mais une montée, où la sensualité devient prière. Cette réconciliation du charnel et du spirituel est peut-être l'un des grands enjeux de notre époque, qui hérite à la fois d'une longue tradition de dualisme et d'un matérialisme réducteur. Reconnaître la dimension sacrée de l'union amoureuse ne signifie pas l'idéaliser naïvement ni ignorer ses difficultés. Cela signifie voir en elle un lieu possible de révélation, une occasion de toucher à quelque chose qui nous dépasse. Chaque grande rencontre amoureuse porte en elle cette promesse. Même si nous ne sommes pas toujours capables de l'accueillir pleinement, sur l'instant présent, même si nos peurs et nos blessures, nos conditionnements, nous empêchent parfois d'aller jusqu'au bout de l'abandon et de la confiance qu'exige l'amour véritable. Mon poème se clôt sur une note paradoxale. La futilité de la matière dans l'absolu de l'union. Cette futilité n'est pas en soi un rejet du corps, mais plutôt une reconnaissance de la relativité. Le corps est important comme véhicule, bien sûr, comme support, comme langage, mais il n'est pas la fin ultime. La fin ultime est la communion des êtres, la fusion des consciences, la reconnaissance mutuelle dans la profondeur. Cette reconnaissance passe certes par le corps, mais elle le transcende infiniment. Alors, en conclusion, que pouvons-nous retenir de cette méditation poétique sur l'amour et la mémoire? Peut-être être d'abord ceci, l'amour authentique ne meurt jamais vraiment. Il entre dans une dimension intemporelle où il demeure accessible à celui qui sait se souvenir avec justesse, c'est-à-dire avec fidélité et gratitude. Ensuite, que le corps et l'âme ne sont pas des ennemis, mais plutôt des alliés dans la quête de l'absolu. Le toucher, le regard, le souffle partagé sont à mon sens autant de voies qui mène vers la transcendance. Enfin, que dans un monde souvent immonde, traversé par la violence et le mensonge, eh bien l'amour véritable constitue un sanctuaire, un espace de vérité et de beauté qui nous rappelle ce pourquoi il vaut la peine de vivre. J'espère que ce poème vous invitera à honorer vos propres vallons perdus, ces lieux intérieurs où se sont accomplis vos propres instants d'éternité. Puisse-t-il encourager à cultiver la mémoire amoureuse, non comme un refuge nostalgique, mais plutôt comme une source vivante qui continue d'irriguer votre existence. Et puisse-t-il vous rappeler que l'amour, dans sa vérité la plus haute, n'est pas seulement une émotion passagère, mais une voie de connaissance, une porte ouverte vers l'infini, une participation à ce qui ne passe pas. Les draps de satin sur lesquels court encore la main ne sont que le support visible d'une réalité invisible, mais infiniment plus réelle, celle de l'union des âmes qui ont su s'abandonner l'une à l'autre dans la confiance et la vulnérabilité. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.